Bonjour, bienvenue dans l'émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Histoire 2 est une émission mensuelle consacrée à la lecture d'histoire. Cette émission du mois de juillet est consacrée à l'auteur américain Rick Bass, que vous connaissez peut-être. Rick Bass est un auteur américain qui est né en 1958, auteur de romans, de nouvelles et d'essais. Et ses écrits sont toujours en lien avec la nature, avec l'environnement. Et c'est le cas des deux nouvelles que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui. Jour de vent. Le dernier jour de ma vie, où je ne savais pas encore si j'allais être le père d'un garçon ou d'une fille, était un beau jour. C'était en octobre, le quatrième mois de grossesse, et de grands vents avaient battu le toit en zinc de notre chalet toute la nuit. Nous nous sommes réveillés en pensant « Aujourd'hui, nous descendons en ville où nous allons enfin savoir. » Ce matin-là, il y avait de la fumée dans toute la vallée, une espèce de brouillard d'un vert sinistre, un goût âcre flotté et des cendres tombées du ciel comme des flocons. Nous sommes restés un certain temps à regarder cette lumière verte que nous n'avions jamais vue et avons attendu qu'il soit l'heure de partir pour la ville. Les rafales de vent atteignaient les 100 et même 120 km à l'heure. On entendait les arbres s'effondrer dans la forêt. Je savais déjà qu'on en croiserait, abattus en travers de la route, mais j'ignorais encore combien. « On devrait peut-être attendre un peu, » a dit Elisabeth. Je pense qu'elle voulait dire un mois de plus, ou même les 5 mois qui restaient. Mais j'étais prêt. J'avais déjà attendu 33 ans. L'attente, ça va un temps. J'étais prêt et tout à fait sûr de l'être. La cime des arbres balayait le ciel. La forêt était littéralement déchirée. Des couloirs de vent arrachaient sur leur passage les branches des mélèzes éternelles et les bourrasques les plus violentes les décapitaient. 100, 110, 120 km heure. Des cendres tourbillonnaient en tous sens. J'ai chargé la tronçonneuse, un bidon d'essence et un autre d'huile, ainsi qu'une grosse clé en croix à l'arrière du camion. J'ai aussi emporté une surchemise et de gros gants de cuir. Ça n'aurait pas d'importance que j'arrive à l'hôpital avec quelques taches d'essence et des copeaux de bois partout. C'est Elisabeth qui allait se faire un examen, une échographie. Pas moi. Moi, j'allais seulement être là, lui tenir la main et regarder l'écran. Des cerfs et des élans filaient à travers bois, sans savoir, au contraire de nous, que l'incendie était encore à plus de 20 km, qu'il n'y avait pas de danger dans l'immédiat, juste de la fumée et du vent. J'ai dû m'arrêter pour couper un arbre environ tous les 100 mètres, durant les 2 premiers kilomètres. C'était excitant, toutes ces branches et ces rameaux qui volaient, certains pris dans des tourbillons de poussière à plusieurs mètres au-dessus de nos têtes. Il était midi, mais à cause des cendres et de la fumée, il faisait si sombre que j'avais allumé les phares. Presque aussi sombre qu'en pleine nuit, mais avec cette étrange nuance de vert. Par instant, la lumière baissait soudain, tellement qu'on aurait dit que quelqu'un tournait volontairement un variateur d'intensité. Les derniers rayons disparaissaient presque complètement et le noir envahissait tout. La nuit, soudain, au milieu de la journée. Mais bientôt le vert revenait, la même lumière blafarde, et je découpais soigneusement chaque arbre en 3 avant de pousser les rondins sur le bas-côté et de passer au suivant. « Il faut qu'on soit très prudent, » a crié Elisabeth, tandis que les arbres s'abattaient autour de nous. « Tu veux qu'on rebrousse chemin ?» ai-je proposé une seule fois. « Non. » Nous gardions les yeux rivés sur la route et sur les bas-côtés pour ne pas nous faire écraser par un arbre. Le vent était si fort et si capricieux qu'il était impossible de deviner dans quel sens les arbres allaient s'écrouler avant le moment de leur chute. Parfois, nous en voyions qui s'effondraient dans la forêt. D'autres fois, ils tombaient sur la route juste en travers de notre chemin ou un peu plus loin. Ils s'abattaient aussi derrière nous, obstruant la route du retour. Mais cela n'avait aucune importance. Il y avait un peu moins de 20 km jusqu'à la route nationale. Ensuite, nous espérions que les choses iraient mieux. La chaussée serait un peu plus large. Peut-être que quelqu'un armé d'une tronçonneuse aurait déjà ouvert le passage. J'avançais lentement mais régulièrement. Nous n'étions pas pressés. J'aimais tronçonner les arbres abattus et les repousser sur le côté. Conduire ma femme et mon enfant. Ouais, j'ai bien dit mon enfant. À travers cette tempête. Je ne considérais pas les arbres comme des dangers ou des ennemis. Il fallait que je fasse attention et que je lève les yeux en découpant parce que je n'entendais pas les bruits que faisait le bois en se lézardant, se craquant et se fondant tant que la scie vrombissait. Elisabeth, depuis le camion, devait surveiller les branches juste au-dessus et alentour pour s'assurer qu'aucune ne s'abattait sur notre véhicule tandis qu'elle s'y trouvait. J'essayais chaque fois de me garer près des corniches ou des avancées rocheuses pour que, si un arbre était abattu, il atterrisse plutôt sur le bas-côté que tout droit sur le camion. Je n'avais jamais voulu savoir. J'avais insisté pour ne pas savoir. Et voilà que tout d'un coup, je voulais savoir. Ce n'était qu'un jour de grand vent, peut-être de trop grand vent, mais il est toujours si difficile de rebrousser chemin. Plusieurs de ces arbres étaient tellement grands. Des ramures de mélèzes aux aiguilles dorées tapissaient l'étroite chaussée. Certaines branches s'élevaient vers le ciel, telles des moignons. Des bois montaient une forte odeur de fumée, mais aussi de sève fraîche, un parfum âcre et capiteux qui me donnait l'envie de filer droit jusqu'à Libye, à plus de 60 km de là, l'endroit où nous nous rendions justement. Nous n'avions pas encore compris que nous allions trouver davantage encore d'arbres abattus en travers de la chaussée, sur la voie principale. Nous avons atteint la route nationale environ une heure avant la tombée de la nuit. Nous avions manqué notre rendez-vous depuis longtemps. Mais ça m'était égal. Mon moteur s'était emballé. Je m'étais depuis longtemps mis au diapason de la forêt dévastée par la tempête. Couper, couper, dégager, repartir. Couper, couper, dégager, repartir. Les cimes continuaient à défiler comme dans un cyclone, et le brouillard vert et lumineux semblait vibrer et s'assombrir, scintillant de plus en plus faiblement jusqu'à céder la place à l'obscurité complète. « Rentrons, » dit finalement Elisabeth. Il nous restait à peine moins de 60 km à parcourir. On réessayera demain. Je n'avais pas envie de faire demi-tour. Cela me paraissait totalement impossible. Nous avions réussi à nous frayer un chemin jusqu'à la route nationale. J'avais encore la tronçonneuse en main et il me restait pas mal d'essence. Il faisait nuit, mais j'avais toujours cette tronçonneuse en main. « Comme tu veux », ai-je répondu. Pourtant, si c'était une fille, dans 16 ans, nous traverserions ensemble l'automne venu, ces mêmes bois à cheval, bondissant par-dessus les souches pourrissantes des arbres tombés ce jour-là dans cette forêt de pins aux senteurs sucrées, sur de belles bêtes musclées dont le ventre gémirait et qui pèterait sauvagement en franchissant chaque obstacle, chaque fois qu'elle sauterait au-dessus de ses troncs abattus. Et si c'était un garçon, dans 16 ans, il charrierait les troncs avec moi pour les sortir du bois, les arrimant avec des cordages et les tirant à travers la forêt à l'aide de ces mêmes chevaux au cours du même automne, pour aller réparer une clôture en bois qu'une nouvelle tempête aurait endommagée. J'avais toujours la tronçonneuse en main. « D'accord, » ai-je répondu, tandis que branches et ramures continuaient à flotter et à dériver dans l'air épais et chargé de cendres, comme autant de banderoles et de cerfs-volants, tous ces morceaux de bois qui se soulevaient et retombaient dans les volutes de fumée brûlante et désordonnée, ces arbres qui oscillaient de droite et de gauche, avec des bruits d'explosion et de craquement. Elisabeth et moi nous accrochons à ce que nous avions, à ce que nous emportions avec nous, sur cette route qui allait de la forêt vers notre avenir, surveillant ces branches mortes qui tombaient et les arbres qui s'effondraient de tous côtés. Et moi, avec ma tronçonneuse, nous frayant un chemin, un centimètre après l'autre, parmi tous ces débris, dans les senteurs de la sève douce et sucrée et l'odeur de bois écrasé, traçant une route étroite sur laquelle nous avancions tout droit pour traverser la forêt et retrouver la lumière.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Vous êtes toujours sur Histoire 2. Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Notre émission du mois de juillet est consacrée à Rick Bass, auteur américain. Et je m'en vais vous lire une seconde nouvelle intitulée Les kayakistes. Ils allaient souvent tous les deux faire du kayak dans l'entrelac de torrents et de rivières qui serpentaient à travers bois et douces collines en direction du nord. Ils partaient dans le vieux camion de Beaune et mettaient le kayak à l'eau sur l'Abrazos, le Colorado, le White Oak Creek, ou même sur les rapides de la Civerte Guadalupe, sans se soucier le moins du monde d'où ils se retrouveraient. Et ils exploraient ces veines d'eau sous l'éclatant soleil d'août sans utiliser de carte, avec pour tout repère l'horizon du prochain méandre. Ils emportaient du vin, un pique-nique, leur matériel de pêche et une lanterne. Ils se laissaient dériver à l'ombre des hautes falaises calcaires, sous de vieux ponts et devant les jardins où les enfants batifolaient à flanc de colline entre les arbres juste au-dessus de la rivière, interrompant leur jeu pour les regarder passer. Ils pagayaient sans relâche, Beaune, torse nu à l'arrière, et Sissi en maillot de bain et chapeau de paille à l'avant. Quand ils atteignaient des bancs de sable blanchis de lumière, Au bord de profonds bassins d'eau sombre, juste après une boucle de la rivière, à la sortie d'une ville ou juste après une route, à l'ombre de chênes immenses, ils amarraient leurs canoës et s'allongeaient sur des couvertures au soleil, comme d'indolentes tortues, nues et luisant de transpiration, buvant du vin et retournant plonger de temps à autre pour faire disparaître les traces d'huile solaire, de sable et de sexe qui leur collaient à la peau. La brise brûlante avait étouffé de les sécher dès qu'ils regagnaient leur couverture. Leurs cheveux mouillés leur conservaient un court moment un peu de fraîcheur. Ils restaient allongés sur le dos, parfaitement immobiles. Le visage tourné vers le soleil, les mains jointes, et ils écoutaient les cris et le bourdonnement incessant des cigales que la chaleur étouffait et affolait dans la forêt toute proche. Plus tard, quand la température s'était quelque peu rafraîchie, quand la cime des arbres commençait à intercepter un peu des rayons verticaux du soleil, ils grimpaient de nouveau dans leur kayak vert et descendaient le courant, indifférents aux contraintes et à la notion du temps, sans marquer le moindre intérêt pour le débit du cours d'eau. Quand il leur arrivait d'y penser, ces questions leur semblaient les avoir nourris et enrichis plutôt qu'autre chose. Il continuait à pagayer jusqu'au crépuscule et même jusqu'à la nuit, de plus en plus amoureux et de moins en moins bavard au fur et à mesure que l'obscurité gagnait du terrain, pagayant ensuite à la lueur de leurs lanternes accrochées à la proue, escortées par les papillons de nuit. Ils n'avaient pas la moindre idée d'où ils pouvaient se trouver, et Bone jetait une ligne à l'eau, attrapant parfois un éclair d'argent qui se débattait et bondissait juste en dehors du cercle de lumière. Les lucioles envahissaient les rives, illuminant le chemin qu'ils devaient suivre. Les vers luisants ne s'aventurent jamais au-dessus de l'eau, si bien que l'obscurité créée par leur absence dessinait les méandres de leur itinéraire. Et de temps à autre, sur les deux rives, ils passaient devant les fenêtres vivement éclairées d'une ou de plusieurs fermes, dont les habitants étaient sur le point de se retirer pour la nuit. Quand ils croisaient un pont solitaire ou une passerelle de chemin de fer, il se décidait finalement à abandonner la partie, ou ce qu'il en restait, à la rivière. Il gagnait le bord où Sissi descendait, la lanterne à la main. Bone lui passait tout le matériel avant de se laisser à son tour glisser hors du kayak, qu'il chargeait sur son épaule comme une espèce de mollusque portant sa coquille. Puis, ils remontaient ensemble la côte, trébuchant dans la broussaille sur les déchets jetés depuis des dizaines d'années par les gens qui passaient sur le pont. Et ils atteignaient enfin la route et la terre ferme, tandis qu'en contrebas, la rivière suivait son cours. Les chouettes ululaient, et des orages de chaleur, telle une pulsation ou l'écho des difficultés de la journée, à moins qu'il ne faille y voir le prix à payer pour tant de bonheur, zébraient le ciel d'éclairs dans toutes les directions. Toutefois, Bone et Sissi n'y voyaient nullement le signe d'une dette ou d'une quelconque comptabilité. Au contraire, ils en ressentaient un plaisir supplémentaire quand la brise soulevée par les orages lointains venait les rafraîchir tandis qu'ils marchaient, accompagnés par le chant des criquets, dans l'obscurité désormais totale à l'exception de la lueur des éclairs et des lucioles qui ponctuaient la prairie et les entouraient comme pour ne pas les laisser seuls. Ils pouvaient être à 7 ou 8 kilomètres de leur camion ou même à 30. Ils ne savaient absolument pas comment le retrouver, mais ils ne s'en inquiétaient ni l'un ni l'autre. Bone n'était pas attendu à son travail avant encore 12 heures. Ils marchaient au milieu de la route sombre, Bone portant toujours le canoë comme une croix ou un immense parapluie, Sissi à ses côtés, pleine de l'amour que l'on ressent pour un être humain, mais aussi pleine de l'affection confortable et muette que l'on éprouve envers un animal, un chien, un cheval, un taureau paisible, un chat. Elle se voyait de la même façon, en partie humaine, en partie autre et animale, et elle se sentait plus sereine qu'elle ne se souvenait de l'avoir jamais été. Mais au bout d'un moment, un véhicule ne manquait jamais de se rapprocher, dans une direction ou une autre, presque toujours un camion dans ce coin du pays, et le chauffeur les prenait en stop. Ils arrimaient le canoë avec le fond vers le bas, comme s'il était encore sur l'eau, montaient dans la cabine à côté du vieux fermier et reprenaient ainsi dans la nuit la route du nord. D'autres fois, cependant, quand il n'y avait pas de corde pour l'attacher, ils s'asseyaient à l'arrière dans leur canoë, s'agrippant aux plats-bords et aux parois du camion pour lui éviter de glisser. Ainsi installés, le vent sifflant à leurs oreilles à 60 ou 70 km à l'heure, ils roulaient sans peur, trop amoureux pour ressentir autre chose que la beauté de l'instant, les cheveux au vent et les éclairs déferlant dans la nuit. Il arrivait que leur bienfaiteur, quand ils passaient les limites d'un comté, ait envie de s'arrêter à l'enseigne lumineuse rouge d'un bar. Il n'y avait jamais que quelques camions garés devant. Et ils descendaient de leur embarcation pour y entrer avec lui, partager une bière, un sandwich ou même des travers de porc. Les flancs du kayak étaient constellés de lucioles écrasées par le vent, dont certaines luisaient encore d'une lumière dorée, mais déjà affaiblies, comme des ampoules se refroidissant. Cela donnait fière allure au bateau. Il était beau comme un char dans un défilé de carnaval, et les clients du bar s'avançaient sur le seuil pour le voir, tout décoré, mais aussi pour accueillir Beaune et Sissi, comme si deux personnages spéciaux, importants ou tout simplement conquis par les lieux, étaient venus leur rendre visite. Et ils buvaient une bière, faisaient une partie de billard ou deux, puis s'approchaient du bar sombre pour écouter le jukebox, tandis que l'orage d'été s'éloignait dans des grondements de tonnerre, tel un immense troupeau qui serait passé dans le ciel. Ensuite, quand ils ressortaient et sautaient dans leur canoë pour reprendre la direction du nord, le chauffeur les aidant à rechercher leur camion, l'air était plus frais et plus propre. De la vapeur d'eau montait des routes obscures et les dernières lucioles se décrochaient des flancs de l'embarcation, si bien que tout était redevenu noir autour d'eux. Ils finissaient par retrouver leur camion, en remercier le vieil homme, lui serrer la main et, pour le bref restant de ses jours, il se souviendrait de les avoir pris en stop, de même que se le rappellerait aussi longtemps qu'il vivrait. Quelle tresse invisible, quel tissu impalpable se noue ainsi de rencontres éphémères qui traversent le temps et les générations. Persistent-ils, sans qu'on les voie, pour former une sorte de fibre ou de résidu dans le monde, ou bien finissent-ils par être emportés comme nettoyés et rendus au néant par une pluie d'orage en été? Et ils roulaient enfin en direction de la grande ville, les vitres baissées, l'autoradio allumée. Et ils déchargeaient le canoë en arrivant chez Beaune et gravissaient l'escalier sans se donner la peine d'allumer l'électricité. Il pouvait être 2 ou 3 heures du matin. Il se déshabillait et se glissait dans son lit, entre les draps propres et familiers. Il faisait toujours un peu plus chaud à l'étage. Ils ouvraient la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Puis ils faisaient à nouveau l'amour, pour le plaisir, mais aussi pour sceller leur retour à la maison, comme pour jeter l'ancre. Et au lever du jour, Beaune se réveillait, se douchait, enfilait son costume et prenait le chemin du travail. Sissi, toujours endormie dans son lit, dans leur lit, pelotonnait entre les draps de coton blanc, les yeux encore clos sous la vague de soleil et du matin.
My Lady Dapandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady Dapandine. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my Lady Dapandine? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dapandine,
so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady da Bonneville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 My lady da Bonneville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Et voilà, ainsi s'achève notre émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous avons découvert deux nouvelles de l'auteur Rick Bass que vous pouvez retrouver dans le recueil de nouvelles intitulé La vie des pierres. Pendant l'émission, nous avons entendu deux titres musicaux. Sound of Silence de Simon & Garfunkel et My Lady da Bonneville de Cat Stevens. Merci à Damien pour la technique, à Corstine pour la composition du générique. On se retrouvera au mois de septembre car il y aura une petite pause estivale pendant le mois d'août, on part se mettre au vert. Et voilà. On se quitte sur un dernier morceau, un morceau qui donne le sourire pour cette belle été qui s'annonce. On se quitte sur la Baraka de Charles Aznavour. Voilà, à très vite en septembre pour la rentrée. Bye bye!
La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour. La baraka, la baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka. Nul ne connaît son jour de chance, car le destin, seul en secret, ouvre le bal, mais ne la danse. Pour un jour, une heure ou jamais, la baraka. presque insouciante. La maraca, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et ni tes jours quand tu es là, c'est notre amour la maraca. Moi j'y croyais sans trop y croire, quand tout à coup ça m'est venu, sans s'annoncer, sans crier gare. Quand soudain tu m'es apparu, la baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka, la baraka, c'est quand tu es entre mes bras.